Tout un monde.
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous, nous avons rendez-vous ce soir avec Shumana Sinha, romancière, traductrice qui vit en France depuis 2001 et qui publie un très beau roman, c'est son troisième, Apatride, aux éditions de l'Olivier.
Prothomoto ami tomake chai, ditiyoto ami tomake chai, ritiyoto আমি তোমাকে চাই, শেষ পর্যন্ত তোমাকে চাই, নিঝুম অন্ধকারে তোমাকে চাই, রাত ভোর হলে আমি তোমাকে চাই.
Trois jeunes femmes indiennes, trois histoires parallèles. Esha, qui vit à Paris, qui est prof d'anglais dans un collège de banlieue, qui a fait le voyage depuis son Bengale natal pour venir étudier et s'installer en France, pleine de rêves et d'attentes. Une Esha qui ressemble, dirait-on, d'assez près à son auteur. Et puis il y a Marie. Marie est née en Inde, elle a été adoptée toute jeune par un couple français, mais elle est obsédée par l'idée de retrouver à Calcutta la trace de ses parents biologiques. Et il y a Mina, la jeune fille pauvre, issue du milieu paysan, née elle aussi au Bengale, mais qui n'en partira jamais, qui est amoureuse de son cousin, dont elle est enceinte, contre toutes les règles de bienséance de son milieu, et qui se trouve embringuée dans des luttes politiques où elle laissera sa vie. Trois parcours de femmes, pleines d'espoir, pleines d'attentes, qui vont tourner court et qui vont même virer à la tragédie. Un livre sombre où aucune de ces trois femmes n'est vraiment destinée à trouver sa juste place nulle part. Bonsoir Shumana.
Bonsoir Marie-Hélène.
Alors c'est peut-être le plus sombre de vos romans. D'ailleurs je me suis trompée parce que c'est pas le troisième, je crois que c'est le quatrième. Mais c'est le troisième aux éditions de l'Olivier.
Oui, c'est le quatrième. Mais même si le premier, tout premier, je le revendique pas tellement. C'était un exercice d'écriture et de la publication.
Bah, vous étiez toute jeune à l'époque parce que là vous avez 43 ans et vous aviez 30 ans à l'époque.
Oui, c'est ça. Mais non, 30 ans, c'est pas, il y a des auteurs qui, il y a 30 ans, qui ont écrit des très, très beaux livres. Mais bon, pour moi, c'était aussi l'introduction à la langue française. Pour moi, c'était, je pense que tout premier roman, c'était un ébauche d'écriture dans la langue française. Donc.
Que vous avez épousé, parce que vous êtes venu en France, en grande partie, dites-vous souvent, par amour pour notre langue.
Oui. D'abord, j'ai lu certains auteurs, poètes et romanciers français, comme plein de gens dans le monde entier, en traduction. Traduction bengali à Calcutta en anglais. Il y a des auteurs bengali qui sont amoureux de la langue française, de la littérature française, de la culture française. Et donc, ils traduisent très bien. Et donc, depuis mon enfance et adolescence, j'étais baignée par la littérature du monde. Et puis, par la suite, j'ai appris la langue française. J'étais un coup de foudre.
Vous l'avez appris au lycée?
Non, j'avais 22 ans, j'avais terminé ma première licence et j'ai commencé à apprendre le français parce que je ne voulais pas continuer avec la licence Sciences Po sur ce chemin-là. J'étais pour la littérature, pour les langues et c'était un coup de foudre. Tout ce qui est de particulier dans la langue française, tout ce qui les sépare, distingue de la langue bengali et anglaise, vous voyez, il n'y a pas de masculin, féminin, il n'y a pas de genre, tous les accords. La langue française, elle est exigeante, elle est lente. Non seulement il exige, il impose même, la langue française impose même un traitement analytique, rationnel dans la langue. Donc quand on écrit en français, quand on pense en français, on est ralenti, on est obligé de suivre la logique linguistique des phrases, et ça qui m'a paru très intéressante. Et depuis, oui, je suis venue en France pour compléter mes études de français à la Sorbonne, traduire les poètes français en bengali et des poètes bengali en français. Et puis un jour, oui, j'ai commencé à écrire en français parce que je n'arrivais plus à rêver en bengali. Dans mes rêves, les gens parlaient français. Donc voilà.
Ça, c'est un basculement considérable. Hein. Joseph Conrad en parlait quand il est passé du polonais à l'anglais. C'est un changement de... Ça colore toute la vie, le changement de langue, notamment quand c'est une langue dans laquelle on crée.
C'est une schizophrénie d'abord. C'est une schizophrénie dans la tête. Il y a plusieurs langues, plusieurs cultures linguistiques qui cohabitent, qui s'entremêlent, qui s'irriguent mutuellement. Si vous voulez, la langue, c'est... Je dois dire, il y a quelque temps, dans un festival, on m'a invité, on m'a proposé du vin rouge, et on m'a demandé mon avis. Et c'était dans un gobelet en plastique. Donc, je ne pouvais pas donner mon avis parce que, comme vous savez, le goût du vin change selon le verre dans lequel on le boit. Donc, pour moi, la langue aussi, la langue change.
C'est très bien, vous êtes plus française que française.
Oui, c'est
à travers une remarque comme celle-là.
Les convertis sont plus exigeants. Mais justement, que le goût de la vie change selon la langue dans laquelle on la vit, on la pense. Donc, depuis que je pense en français, le goût de la vie elle-même a changé et est en train de se transformer pour moi, oui.
Alors justement, ce roman Apatride, il parle aussi du lien que vous avez tout de même conservé, car c'est un roman, on le sent bien en le lisant, en assez grande partie autobiographique. Mmh. En tout cas, le personnage principal, Esha, semble vous ressembler de très très près. C'est une jeune femme diplômée qui est d'origine indienne, qui vit à Paris, qui enseigne dans un collège, qui nous parle de cette vie donc quotidienne au collège qui est pénible avec des élèves qui s'en foutent, qui l'agressent, etc. Donc ça, c'est votre vécu d'il y a quelques années.
Oui, oui. C'est-à-dire que j'avais d'abord composé le personnage de Mina, qui est la deuxième femme qui est à la campagne du Bengale, près de Calcutta, parce que ces derniers temps, quand j'étais invitée ici ou là pour parler dans mes livres, toujours m'a posé ces questions, mais qu'est-ce qui se passe en Inde? Pourquoi il y a autant de cas de viol? C'est très récent. Le viol, ça a existé dans tous les pays depuis la nuit des temps. Mais qu'est-ce qui se passe en Inde tout d'un coup comme ça? Donc j'ai essayé d'un peu comprendre et ça m'a paru que le viol était, dans beaucoup de cas, l'expression érotique d'un conflit socio-économique. L'Inde a pris un tel essor, la classe moyenne est devenue classe moyenne aisée. Le 15% de la population indienne, c'est la société de consommation. Ils mangent, ils dévorent tout comme Gargantua. Et la classe pauvre, il est resté les gens misérables, il est resté en bas d'échelle. Personne n'a jamais pensé à ces gens-là. Et eux, ils ne comprennent pas les nouveaux codes sociaux qui ont changé pour la classe moyenne aisée, les femmes, jeunes hommes qui sortent, qui boivent, qui fument, qui vivent leur vie. Et les gens qui sont restés en bas d'échelle, il le voit comme sur une perversion, provocation, légitime même parfois que si une femme se comporte de telle façon, entre guillemets.
Ça veut dire
qu'elle le cherche, que c'est légitime. Donc il y a vraiment un conflit socio-économique qui m'a paru à explorer. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à composer mon personnage de Mina.
Mais en même temps, Esha, donc ce personnage qui est proche de vous, qui est la deuxième du triangle, c'est une jeune femme qui vit à Paris et qui est sans arrêt, il y a plusieurs épisodes dans votre livre, sans arrêt, soumise à un racisme d'une extrême violence. Dans le métro, on l'interpelle, les hommes sont extrêmement agressifs. En gros, elle est de couleur, c'est une expression que vous utilisez qui revient de manière obsédante. Donc, c'est une femme facile avec laquelle on peut tout se permettre.
Oui, oui, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à composer le personnage de Mina, je suis revenue à Paris et c'était un... Il y a eu janvier 2015, donc il y a eu Charlie. Donc ça, nous tous, nous étions bouleversés et j'ai eu envie de comprendre les fractures socioculturelles que vous évoquez, qui sont présentes dans mon livre. J'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est être femme de couleur, même si cette expression je n'aime pas parce que tout le monde a une couleur, personne n'est transparent. Or, j'ai eu l'impression comme si être femme de couleur, c'est une forme d'être subalterne parmi les subalternes. Et comme si en France, il y a une sorte de hiérarchie qui est installée, que d'abord les Français de souche, de racine, et puis il y a ceux qui sont venus par le lien postcolonial, et ensuite tous ceux qui viennent, comme les Indiens, Pakistanais, Bangladais, c'est comme si une sorte de plus de vulnérabilité qui les accable. Et là, être femme, vivre dans un quartier de Paris aisé plutôt, là aussi, il y a une forme de racisme blanc. Et là encore, quand elle va traverser la frontière dans les banlieues, au lycée, là, il y a une autre forme de racisme de toutes les couleurs, les gens qui se croient plus légitimes qu'elle pour vivre en France. Et effectivement, il y a l'aspect sexiste qui est là. C'est que les hommes, ça leur paraît qu'une femme de couleur indienne, si elle vit, si elle se comporte de façon, entre guillemets, libérée, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'il y a comme s'il y avait une image de la femme indienne dans la psyché des gens, il y a un fantasme absolu, il y a une image figée, qu'il faut se conformer à cette image-là. Si on sort de cette image-là, dans ce cadre-là, on est stigmatisé, on est interpellé, on est jugé en permanence.
soir dans Tout un monde, une rencontre avec la romancière Shumona Sinha, qui a choisi la playlist de l'émission. Shumona, la première, c'était qu'on a entendu tout à l'heure, c'était un chanteur de Calcutta des années 90.
Oui,
donc,
c'est
votre enfance.
C'est Shumon Chattopadhyay, c'est mon adolescence, jeunesse, voilà. Oui.
Et là, c'est un groupe que vous adorez.
Oui, Christine and the Queens, j'adore. J'adore Christine and the Queens et je peux vous dire que toute l'année de 2015, en fait, quand on était sombrés tous dans une sorte de tristesse, de désarroi absolu, et la voix de Christine and the Queens m'a donné espoir. C'est tout bête de parler comme ça, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, tout l'album entier de Christine and the Queens, ça m'a donné quelques moments d'espoir, quelques moments d'énergie. Oui, je l'adore.
Alors, vous décrivez dans ce livre votre vie quotidienne en France, la vie d'une femme libre qui rencontre des hommes sur les réseaux sociaux, qui a une sorte d'amoureux en pointillé qui s'appelle Julien, qui est un philosophe et qui en même temps vit assez mal cette liberté. On parlera tout à l'heure de la fin qui est assez tragique dans ce livre. Donc, cette liberté est mal assumée.
Oui, c'est-à-dire que il y a une attente de la liberté, il y a une aspiration de la liberté, un rêve de la liberté avec lequel elle a quitté l'Inde. Elle a quitté l'Inde, elle a pensé que c'est pas seulement la France, mais surtout Paris qui est symbole de cette liberté des intellectuels, des artistes, et depuis l'époque des impressionnistes, ensuite les surréalistes, le monde entier, tous les artistes du monde entier vivent à Paris. Et elle avait cette idée-là, elle a toujours si vous voulez, ce cliché, cette carte postale personnelle, fanée, périmée, qui est là dans sa tête. Et effectivement, dans le roman, en tout cas, sa relation, entre guillemets, amoureuse avec Julien, elle sait pas quoi faire, elle sait pas comment gérer Julien non plus, peut-être. C'est-à-dire qu'un amour libre, être polyamoureux, c'est une forme qu'on a choisi beaucoup, peut-être, dans nos jours, mais c'est pas toujours facile à gérer. Gérer ces situations des polyamoureux toujours. Et puis, surtout, elle est sapiosexuelle. Je pense qu'Echa a tous les défauts d'une femme modèle. Elle est sapiosexuelle, donc elle ne peut pas se contenter d'être avec n'importe qui, juste physiquement, sexuellement satisfaite. Donc, elle a besoin de tout, en fait. Elle a besoin d'un philosophe brillant en même temps qu'elle.
Voilà. Donc, et rien ne la comble.
Rien ne la comble. Donc, c'est un peu compliqué. Je la trouve
un peu compliqué. Alors, il y a deux autres donc personnages de femmes. On a parler un petit peu de Mina, donc cette jeune femme qui, elle, est du milieu paysan pauvre et qui va se trouver embringuée dans une lutte politique où elle est instrumentalisée. Et puis, il y en a une troisième qui est très intéressante, qui s'appelle Marie, et elle porte, d'ailleurs, dites-vous, dans le livre, un nom extrêmement français. Elle s'appelle Marie Montigny, mais elle a ce que vous qualifiez de peau d'argile, puisque c'est une Indienne née, conçue en Inde, qui a été adoptée, et elle est obsédée à l'idée de ne pas connaître ses vrais parents. Elle a été obsédée dans le cadre des missions de Mère Teresa. Et apparemment, on voit dans ce livre, on comprend qu'il y a eu des adoptions un peu brutales et mal gérées, quoi.
Oui, le personnage de Marie, je l'ai pris d'abord par un besoin technique romanesque. Parce que c'est elle qui fait le lien entre l'Inde et la France, entre Echa et Mina. Et puis, évidemment, plus on écrit, on entre dans un microclimat, on installe un microclimat, on vit avec ces personnages. Et plus j'écris, plus j'ai la sympathie croissante pour mes personnages. Donc, Marie, c'est comme si un personnage inachevé. On ne connaît pas son point de départ et on ne connaît pas sa fin. Il reste dans ce va-et-vient, il reste dans ce trajet entre l'Inde et la France. Et ça m'a paru intéressant de le garder aussi inachevé dans le roman même, qui symbolise comme si c'était un trait d'union entre deux pays, entre deux femmes. Et pour parler de son histoire un petit peu plus précisément, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas d'adoption des enfants. Souvent, vous savez, quand dans les familles pauvres, extrêmement pauvres, on envoie, les familles sont nombreuses, les enfants, il y en a beaucoup d'enfants, et on les envoie travailler à la ville. Soit les femmes de ménage, femmes de ménage, c'est trop dit parce que ce sont des petites filles, c'est des petites filles de ménage ou de garçons de ménage qui travaillent dans les stands de thé, restaurants, dans des usines. On les engage beaucoup dans les usines des allumettes, en fait, parce qu'on croit qu'avec leur petit doigt, ils pourront mieux mettre la poutre sur le bâtonnet. Donc, il y a beaucoup d'exploitation des enfants pauvres ou orphelins on est même pas obligé d'être orphelin pour être malheureux, vous voyez, il suffit d'être de famille misérable et donc on est très très malmené. Et effectivement, la famille de Marie, ils avaient besoin sans doute de vendre leur fille pour gagner un peu d'argent et en espoir aussi que la fille vivra peut-être mieux, qu'elle aura une meilleure vie. Donc c'est ainsi que Marie est arrivée en France.
Et à l'autre bout, il y avait donc des parents ici demandeurs d'enfants et elle ne s'est jamais vraiment adaptée et c'est le problème d'ailleurs qu'on soulève de plus en plus, c'est que l'adoption internationale, c'est pas si facile que ça. Et il y a un mal-être chez Marie. Elle n'a pas vraiment trouvé son épanouissement en France.
C'est-à-dire, je suis entièrement pour l'adoption. Je suis entièrement pour l'adoption de tout le monde, d'hommes, femmes, couples gays, homosexuels, tout ce qu'on veut. Mais Marie, c'est un cas particulier parce que elle a été adoptée par le biais de la mission de Mère Teresa. Et avec les années, tout ce qu'elle a découvert sur cette mission de Mère Teresa, elle s'est mise dans la tête que l'adoption était mal gérée, a été faite de façon malhonnête. Et c'est pour ça qu'elle y va à Calcutta sans cesse. Et on voit dans le livre aussi qu'elle frappe à plusieurs fois à la porte de cette mission et on l'écarte. Et c'est dans le processus qui a été mal fait. Or, autrement, elle pourrait très bien vivre en France avec ses parents qui l'aimaient, mais c'est elle qui n'arrivait pas à accepter cet amour, peut-être.
Tout un monde, Marie-Hélène Fraissé.
No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine poor. One day, baby, we'll be old.
Ce soir, rendez-vous avec Shumana Sinha, romancière franco-indienne. Et c'est vous, Shumana, qui avez aussi choisi cette belle chanson magnifique de Asaf Avidan.
Oui, je l'aime beaucoup. Comme beaucoup, nous sommes nombreux, j'imagine, à travers la planète, à l'aimer. Il est, après longtemps, on entend une voix comme ça, voix brisée, décassée. On dirait une voix de castrat même. Mm-hmm. Et lui-même, il dit qu'il est de l'Israël, mais il ne dit pas qu'il est israélien ou israélite. Ses chansons, les paroles sont extrêmement importantes, belles paroles graves, qui parlent de l'homme, de l'être humain, de l'humanité, de la détresse et de joie et de bonheur aussi, de
et l'espoir. One day, un jour, je serai vieille. Je serai vieux, pardon. Voilà. Mais il évoque une vieille femme.
Et puis, il y a plusieurs chansons de lui qui sont célèbres maintenant. Et voilà, je l'adore.
Alors, aucune de vos héroïnes ne vieillit dans le roman parce que c'est un roman sur peu de temps et il y a l'une d'elles qui va mourir. Donc, Mina, une partie du roman, Apatride, se déroule au Bengale et se déroule à Calcutta, où on comprend d'abord la situation politique extrêmement complexe qu'a traversé le Bengale. Alors, ça date d'il y a quelques années, ce que vous décrivez, c'est-à-dire des heurts, des émeutes, une collusion bizarre entre l'extrême droite et les mouvements maoïstes, en tout cas une société d'extrême violence.
Oui, c'est-à-dire l'Inde donne une image qui n'est pas totalement fausse non plus, parce qu'en Inde, tout est possible et son contraire. L'Occident, si on cite Edouard Glissant, dit l'Occident n'est pas un lieu, mais un projet. De la même façon, l'orientalisme aussi est un projet. Donc l'Inde a cette image pour les Occidentaux que c'est un pays de la paix, de spiritualisme, ce qui n'est pas complètement faux. Il y a cet aspect de paisibilité ou de cohabitation tout à fait réussi entre toutes les langues, 22 langues officielles, les cultures différentes du nord au sud, de toutes les régions, à tous les États, à leur propre gouvernement, vie, culture, etc. Mais en même temps, il y a une violence qui est toujours là en Inde, violence sociale, économique, religieuse, entre les hindous et les musulmans, ou plutôt entre les hindouistes et les islamistes, manipulés par les partis politiques qui ont leur intérêt. Eh bien oui, Bengale occidental, si vous voulez, il, comme le Kerala, a été gouverné pendant 34 ans par le parti communiste, parti de gauche, qui ressemble plus à un parti socialiste démocrate qu'au parti communiste. En tout cas, il a été gouverné par ce parti de gauche. Et il y a eu des réformes agraires, réformes industrielles. Et ce qui s'est passé, c'est que dans d'autres parties en Inde, vous avez encore le système féodal. Il y a des grandes terres, larges, vastes terres, qui ont comme propriété un seul homme, une seule personne. Or, au Bengale, ce n'est plus possible. Donc, ce qui se passe, dans les années 75, quand le parti gauche était venu au pouvoir, ils ont fait cette réforme agraire. Donc, les paysans ont pris une forme de pouvoir. Ils ont leur pouvoir. Mais la réforme industrielle n'a pas été aussi avancée. Donc, dans ces années courantes maintenant, quand il y a la tentative de la part du gouvernement pour la réforme industrielle, et les paysans maintenant qui ont profité, qui ont bénéficié légitimement du parti de gauche. Maintenant, c'est aujourd'hui, une partie des paysans sont contre le gouvernement de gauche parce qu'ils ne veulent pas que leur terre de culture se transforme en terre industrialisée. C'est d'où le conflit.
Situation très explosive. Ce sont souvent les femmes qui paient les pots cassés. Alors, je voudrais maintenant vous faire écouter le témoignage d'une autre romancière qui s'appelle Anuradha Roy. Et c'est très étonnant parce qu'elle vient de publier un roman chez Actes Sud qui s'appelle Sous les lunes de Jupiter. Et il y a des parallélisme troublant. Ce sont des histoires croisées de femmes aussi. Parallélisme avec donc votre propre roman Apatride. Il y a un chassé croisé donc d'aventures. Il y a une violente critique des clichés qu'on entretient en Europe à propos de l'Inde. Et notamment à propos, alors ça rejoint ce que vous disiez sur Mère Teresa, à propos des prétendus maîtres spirituels, alors cette fois indiens, qui seraient souvent des manipulateurs, des tartuffes, et en l'occurrence dans le roman, pédophiles. Cette auteure, Anuradha Roy, elle navigue depuis toujours entre donc l'Europe et l'Inde, même flou identitaire que vous, mais pour elle depuis sa toute petite enfance, puisqu'elle a vécu en Angleterre, hors de l'Inde notamment, fait ses études à Cambridge, ce qui lui donne un angle de vue privilégié, de loin, comme ça, sur la société indienne. Anuradha Roy. Mes parents vivaient surtout à l'étranger. Donc, j'ai été élevée dans de nombreux endroits et ce sentiment d'être dans la marge, d'être outsider, m'a accompagnée toute ma vie. Vivre à l'étranger, bien sûr, vous donne un autre regard sur votre pays, mais c'était aussi en moi, car quand on écrit de la fiction, cela implique d'être outsider partout où on se trouve. Vous considérez-vous comme une écrivaine indienne ou comme une écrivaine de langue anglaise?
En fait, j'appartiens à une tradition littéraire d'écrivains qui sont de partout dans le monde, y compris de l'Inde. J'ai grandi en lisant plusieurs langues, donc je ne me sens pas assignée à un endroit précis du monde.
Pourquoi avez-vous voulu particulièrement épingler le personnage du gourou dans son ashram? Est-ce que c'est une critique du système religieux en Inde? Est-ce que c'est une critique des abus qui se font dans certaines communautés?
Alors, en fait, il y a deux aspects dans cette question. D'abord, le gourou de cet ashram que j'ai décrit est, à mes yeux, un symbole du pouvoir spirituel abusif, quelle que soit la tradition ou la religion qu'il représente, qu'il s'agisse d'une structure catholique ou d'un ashram religieux en Inde. Le problème est quand une personne qui a un pouvoir spirituel s'en sert pour exploiter des faibles. Et dans mon roman, il s'agit d'enfants. Le deuxième aspect, c'est que certains groupes hindouistes ces dernières années sont devenus beaucoup plus agressifs et chauvins, ce qui me révolte.
Tout particulièrement en ce qui concerne les femmes, puisque vous êtes Anuradha Roy, une militante des droits des femmes et une éditrice aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de l'action que vous menez en faveur des droits des femmes?
I think all that I do is really
Mon action, en fait, se résume à écrire. Je ne suis pas une activiste, je ne suis pas quelqu'un d'engagé personnellement dans les luttes, mais je regarde autour de moi et j'écris. Dans tous mes romans, depuis le premier jusqu'à celui-ci, Sous les lunes de Jupiter, il y a des femmes très énergiques qui ont toujours fait le maximum de ce qu'elles pouvaient faire, mais à l'intérieur de structures sociales très contraignantes. Et ces femmes traçaient leur chemin, elles avaient une vie heureuse, quelles que soient les circonstances. Et si la fiction a le pouvoir de changer quelque chose, bien c'est de cette manière-là que j'ai voulu y contribuer, mais je ne me considère pas comme une activiste. Voilà, c'était par téléphone depuis l'Inde le témoignage d'Anuradha Roy qui publie « Sous les lunes de Jupiter » chez Actes Sud. Alors nous sommes ici en studio avec Shumana Sinha qui, elle, publie son quatrième roman, Apatride. Il y a beaucoup de parallélisme.
Oui, je suis vraiment contente d'entendre ces propos-là, ce discours qui est engagé malgré elle. Ce qu'elle dit, je comprends, c'est tout à fait cela, que notre rôle n'est pas toujours forcément, il y a des moments où on est obligé de signer une pétition, de plusieurs pétitions, descendre dans la rue, mais la plupart du temps, principalement, c'est en écrivant qu'on peut avancer les choses. Et ce qui est très très important de souligner sans cesse, nous les Indiens, enfin, les auteurs artistes d'origine indienne écrivant dans toutes les langues du monde ou dans les langues indiennes, c'est qu'il y a un véritable danger de fondamentalisme hindouiste en Inde. Ce parti BJP qui est au pouvoir, Narendra Modi, qui est très controversé, vous le savez, lui il est membre de BJP, le BJP qui est au pouvoir, mais il y a aussi la faction des RSS qui est partie de la coalition, et Narendra Modi était militant de ce parti RSS, et il y a un militant de RSS avait assassiné Mahatma Gandhi. Donc le peuple indien a, on dirait, une amnésie ponctuelle et partielle, et comme dans le monde entier, le peuple oublie le montée du fascisme, montée de l'humiliation, quand on prend tout le peuple en otage, la démocratie en otage, et c'est très très dangereux, ce parti qui a commis plusieurs fois les émeutes communautaristes entre les hindous et les musulmans, eh bien c'est très très dangereux.
Merci Shumana Sinha. On aura compris qu'on a aussi dans ce livre Apatride un regard très éclairant sur l'Inde d'aujourd'hui et puis aussi sur ses voyages entre les cultures.
Merci beaucoup.
Voilà, avant qu'on se quitte, je voudrais vous signaler aussi un livre qui vient de paraître, un beau roman, Marche avec la nuit, d'Olivier Germain-Thomas, une voix qui a été longtemps familière aux auditeurs de France Culture, et c'est un autre voyage en Inde qui suit une rivière, la Narmada, et c'est un voyage de formation, un voyage initiatique, un parcours semé de rencontres, d'épreuves, dont le voyageur sortira rincé, comme aurait dit Nicolas Bouvier, c'est-à-dire dépouillé de son projet initial de devenir un religieux. Un très beau récit fraternel qui vient de paraître aux éditions du Rocher. Et on termine sur le nouvel album d'un très beau groupe, aussi des rencontres culturelles, puisque ce sont les traditions musicales du Niger qui rencontrent celles de la Bretagne. C'est Serendou et son nouvel album Zinder. Ils seront en concert à Paris le 16 mars au studio de l'Ermitage. Voilà, c'est sur cette belle musique rassembleuse que se termine Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Jean-Louis Deloncle, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, par Marie-Hélène Freissé. Sur France Culture, où vous attend maintenant Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.